Lizzie présente Code Lupin de Michel Bussy, lu par Christophe Brou. À Karine, Chloé et Arthur. Tous les sites, monuments, châteaux, ruines, calvaires, chapelles, souterrains décrits dans ce livre existent. On peut encore les visiter aujourd'hui. Tous les épisodes relatifs aux aventures d'Arsène Lupin sont véritablement issus de l'œuvre de Maurice Leblanc. Chacun pourra s'y référer en les lisant ou les relisant. Tous les indices fournis dans Code Lupin sont réels. Vous êtes libre de croire en notre solution ou d'en imaginer une autre. Les faits. Entre 1905 et 1939, Maurice Leblanc écrivit 60 aventures d'Arsène Lupin. Beaucoup de ces aventures, surtout les plus énigmatiques, possèdent pour cadre ce que Maurice Leblanc a lui-même appelé le triangle cauchois, ou triangle d'or. Un triangle géographique dans lequel Maurice Leblanc a d'ailleurs passé la majorité de sa vie. En 1955, Raymond Lindon, maire d'Étretat, ami de Maurice Leblanc, publie sous le pseudonyme de Valère Catogan Le secret des rois de France. Il prétend dans ce court essai que le roman L'aiguille creuse possède un sens caché qui dissimule un secret historique. L'ouvrage est aujourd'hui épuisé et introuvable. La falaise de la côte d'Albâtre, du Havre au Tréport, recule chaque année, en moyenne d'environ 21 cm. La plupart des accès à la mer, échelles, escaliers, souterrains construits patiemment par les hommes depuis des siècles, ont aujourd'hui disparu, sont inaccessibles ou interdits au public. Chaque année, près de 2 millions de visiteurs venus du monde entier se rendent à Étretat pour admirer l'aiguille. Chapitre 1. La pièce d'or. Gérard Meyer hésita quelques instants avant d'entrer dans l'office de tourisme de Saint-Valery-en-Caux, cette longue bâtisse à colombages, étrange et biscornue. Ce 11 juillet, un soleil de plomb s'était abattu toute la journée sur la petite station balnéaire. C'était comme cela depuis une semaine, et seuls de violents orages chaque soir venaient perturber la canicule. Mais en cette fin d'après-midi, pour l'instant, aucun vent ne soufflait, et les drapeaux européens, français, normands, pendaient, immobiles, paresseusement, devant la mairie. À quelques mètres, les bateaux multicolores du port de Plaisance clapotaient doucement. Ils étaient piégés. C'était la marée basse. Ils devraient attendre plusieurs heures avant de pouvoir sortir en mer. Gérard Meyer dégoulinait encore de sueur. Finalement, il franchit en baissant la tête la porte basse en bois ouvragé. Entré, il frissonna. Il était encore torse nu. Il n'avait même pas pensé à remettre un t-shirt. À plus de 50 ans, il connaissait les limites du charme de son corps nu. Après tout, il venait là pour rendre service. Mais surtout, il n'avait pas pensé qu'il ferait une telle rencontre. Derrière son bureau encombré de prospectus, la jeune femme leva les yeux sur lui. Ce fut tout d'abord ses yeux noirs qui troublèrent Gérard, des yeux profonds d'Espagnol. D'Andalouse, pensa-t-il immédiatement. La demoiselle était habillée d'un petit bustier blanc en dentelle qui laissait dénuder ses épaules mates. Retenue par un chignon improvisé, de longs cheveux, noirs eux aussi, semblaient n'attendre que d'être libérés pour venir caresser ce buste. Gérard resta un instant immobile. Il eut encore le temps d'admirer les deux grands anneaux argentés que la jeune femme portait en boucle d'oreille. Elle lui sourit et lança un bonjour avec un délicieux petit accent espagnol. Espagnol. Andalouse, sûrement. Gérard ne s'était pas trompé. Toujours un peu gêné, il s'avança vers le guichet. Il eut le temps d'observer un petit badge agrafé à son bustier. Paloma. Stagiaire. « J'ai trouvé ça sur la plage. Il sortit de la poche de son short une pièce d'or. Il la posa devant la jeune femme. Étonnée, elle observa de plus près l'objet trouvé. La pièce était très abîmée, mais on distinguait encore distinctement le dessin d'une couronne, ainsi que quelques mots anglais. En regardant de plus près, elle repéra une date, 1905. « Vous l'avez trouvé sur la plage ?» Le sourire de la jeune stagiaire, son accent ou les deux à la fois, firent une nouvelle fois frissonner Gérard. « Oui, » bredouilla-t-il. « On pêchait à pied avec les mômes, on profitait de la marée basse. C'est la petite qui l'a trouvée sous les falaises. Comme c'est pas à nous, on s'est dit que quelqu'un viendrait peut-être la réclamer. » La jeune ibérique regarda Gérard un instant avec intérêt. « Merci, » continua-t-elle. « Vous êtes en vacances longtemps ici ? Si personne n'est venu la réclamer dans quelques jours, je pourrais vous la redonner ? Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas à nous. De toutes les façons, on repart demain. Gardez-la. Vous avez bien un musée ici pour ces trucs-là. » Paloma sourit. « Merci, » ajouta-t-elle. « de rien, je vous jure. C'est pas grand-chose. Puis c'est normal, on l'a trouvé, c'est tout. » Gérard lui adressa un petit signe de la main et sortit de l'office de tourisme. Paloma resta seule. Elle prit à nouveau la pièce entre ses doigts. Il s'agissait assurément d'une pièce de valeur. C'était de l'or. Elle en avait la certitude. Elle suivait des cours d'histoire. Elle avait acquis quelques notions à propos de ces objets anciens. Elle essaya à nouveau de détailler les inscriptions. La date 1905 retenait son attention. Elle regarda par la porte vitrée le port de plaisance. Gérard avait déjà disparu. Une étrange question lui vint alors à l'esprit. Quel pourcentage de touristes trouvant une pièce d'or sur la plage la ramènerait en mairie ? Moins de la moitié sans doute. Oui, beaucoup moins. À peine 10%. Garder pour soi une pièce trouvée, ce n'est pas de la malhonnêteté. 10%, c'était déjà beaucoup à bien y réfléchir. L'esprit de déduction de Paloma se mit à fonctionner très vite. Elle réfléchissait toujours ainsi, par hypothèses et déductions successives. Si on admettait que moins de 10% des touristes ramèneraient une pièce d'or trouvée en mairie, on pouvait alors poser deux hypothèses. Soit la pièce d'or qu'elle avait entre les mains avait eu la chance d'être trouvée par un de ces rares touristes capables de ne pas garder la pièce pour lui. Mais cette hypothèse était statistiquement très improbable. Soit, et cette seconde hypothèse lui sembla immédiatement beaucoup plus vraisemblable, il y avait beaucoup de pièces d'or éparpillées à Saint-Valery-en-Caux, sur l'estran, sous les falaises, entre les galets, dispersées par les vagues. Une dizaine, peut-être plus. Beaucoup de touristes avaient trouvé ces pièces. Et comme c'était probable, à un moment donné, une de ces pièces a été trouvée par un homme particulièrement honnête. Non seulement Paloma semblait assez fière de sa déduction, mais surtout celle-ci lui ouvrait la délicieuse perspective d'un trésor sous les falaises. Elle resta un instant, rêveuse, à observer au loin la forêt multicolore de mâts de voiliers du port de plaisance. Avant tout, son hypothèse lui offrait un prétexte inespéré, de contacter Roland Bergton. Le professeur Roland Bergton, son directeur de mémoire de recherche. Paloma était une étudiante espagnole originaire de Carthagène, en Murcie. Elle précisait régulièrement en France que non, elle n'était pas andalouse. La Murcie est une toute petite province autonome qui tient à son indépendance face à sa grande voisine andalouse. Elle suivait depuis 6 mois des études en France dans le cadre du programme d'échange Erasmus. Elle avait intégré un master d'histoire et de protection du patrimoine sous la direction du célèbre professeur Roland Bergton. Elle avait soutenu son mémoire sur « Les sources et fontaines cauchoises » il y a moins de 10 jours, avec la mention maximale. Déjà, elle s'ennuyait de son charmant professeur. C'est lui, par son réseau de relations, qui lui avait déniché ce poste de stagiaire à l'office de tourisme de Saint-Valery-en-Caux.